Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les échos du Grand Saint-Barthélemy, ici en direct au sein du comité Mamega. Exceptionnellement, nous faisons l'émission de radio le 17 décembre, car bientôt il va y avoir les fêtes et on ne sera pas là malheureusement, mais je vous invite à nous écouter aujourd'hui. Tout d'abord, avant de vous passer Jean-Marc, qui va animer l'émission de radio tout au long de ces 1h30 au sein du comité Mamega, je vous invite d'aller sur le site du vivreensemble.org. Vous allez voir le travail du comité Mamega avec l'ensemble des partenaires du Grand Saint-Barthélemy. Et je vous donne un numéro de téléphone éventuellement lors de l'émission de radio. Vous pouvez appeler à tout moment, interpeller les invités qui sont là, au 07 49 53 26 38. Je répète, au 07 49 53 26 38. Je vous passe Jean-Marc.
Merci Farid. Bien bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Galère. Donc sur les ondes de 88.4 d'Aban FM et sur le canal 8C de la RNT en DAB+, n'oublions pas le site de la radio qui est le www.radiogalère.org. Vous pouvez nous appeler, comme vous le soulignait Farid, au 07 49 53 26 38. Donc nous vous rappelons que c'est une émission traditionnellement qui se déroule depuis quelques années, le dernier jeudi du mois, de 13h30 à 15h en direct du local. À la technique, nous avons notre ami Sidi, qui est toujours fidèle à nos rendez-vous et nous le remercions vivement. Aujourd'hui, les échos sont consacrés à une librairie que nous, par provocation plus que par autre chose, considérons qu'elle n'est pas comme les autres. Il s'agit de la librairie Transit Librairie. Pour co-animer, nous avons notre ami Saïd Bouknouch. Bonjour Saïd.
Bonjour Jean-Marc.
Alors, comment vas-tu? Donc, je rappelle que tu es adhérent du comité Mamega d'une part, mais d'autre part, tu es un des responsables du collectif Mémoire en Marche. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Et accessoirement, une autre question, c'est est-ce que le collectif en tant que tel, comme il y en a tellement qui se créent, est-ce que cela remplace quelque part l'association en tant que telle?
Non, c'est un collectif, c'est-à-dire que c'est pas une association qui a déposé des statuts. C'est un nombre de copains qui, depuis très longtemps, nous connaissons, qui avons lutté ensemble, notamment au niveau... la création de Radio Gazelle, la marche pour l'égalité contre le racisme. Et donc, on fait un peu un travail sur un peu la mémoire des luttes. Et donc, ça nous semble intéressant, à la fois pour nous, pour essayer d'imaginer l'avenir, mais aussi pour d'autres générations, pour voir un peu ce qui s'est passé avant. Ça peut les inspirer, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire pareil que nous, mais ça veut dire juste que c'est intéressant qu'ils aient l'information.
Donc, tu évoquais Radio Gazelle. Donc, parmi les mauvaises nouvelles, c'est la disparition, le décès de notre ami Ahmed Issaoui, qui a participé à cette grande épopée de Radio Gazelle, et notamment la création. Il a été très dynamique. Donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est d'évoquer certes son souvenir, mais de nous associer à la douleur de la famille ainsi que de ses enfants, puisqu'il a eu, il a des enfants à ma connaissance.
Ses enfants.
Donc, pour ce faire, nous vous proposons d'écouter un morceau de musique, pas vrai, Saïd, qui a été repris par les Femmes en Action sur cette air. C'est d'un groupe marocain, Nasser Irwan, et qui évoquait le massacre de Sabra et Shatila au Liban à cette période-là. Donc, première pause musicale que nous dédions à Ahmed Issaoui. Merci, Sidi. Thank you.
القتال وجايزة عالم فيك القتال وجايزة وفيك الحقرة فايزة ومن كل ماضي حكام يا عالم يا عالم يا عالم كل بحار دموع الصبيان كل بحار دموع الصبيان جايزة سارت للعاش وبنات في الظلام يا عالم فيك يتعلموا الحسانة فيك يتعلموا الحسانة بلا موس بلا ما بيوس تامة وش الأكلام يا عالم عالم فيك القتال وجايز عالم فيك القتال وجايز
I'm not.
Les échos sur la 88.4 de la bande FM Radio Galère, émission Les échos de Grand Saint-Barthélemy, avec nos invités, mais je ne sais pas si, concernant Karima Berich, nous pouvons considérer que c'est une invitée. Donc, vous savez déjà qu'elle est sociologue, mais qu'elle est militante, et aujourd'hui, passeuse de mémoire, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si cela te convient.
Ça me convient tout à fait, parce que la question de la mémoire, et notamment de celle des quartiers populaires, me tient à cœur.
Michel, de la librairie Transit,
qui Bonjour.
N'est pas, selon nous, une librairie comme les autres. Bonjour Michel.
Bonjour, d'abord merci de nous avoir invités à cette émission. Oui, c'est pas une livre. Ah, en fait, c'est une librairie comme les autres, mais aussi pas une librairie comme les autres. C'est-à-dire que, je sais pas si... Voilà, c'est une librairie comme les autres dans le sens où c'est comme toute librairie, on vient acheter des livres, on peut commander les livres, tout livre possible. Et alors, ce n'est pas une librairie comme les autres de par son fond, puisque c'est une librairie spécialisée en critique sociale, en texte critique, basé sur un panel de thématiques que l'on a définies. Je vais en citer deux ou trois comme ça. Il y a effectivement une thématique sur l'anticapitalisme et sur le critique du capitalisme. Il y a toute une thématique sur les questions de genre, que ce soit féminisme, LGBT, qui nous tient à cœur, notamment... avec pas mal de livres sur le féminisme et sur l'intersectionnalité, en tout cas. Il y a une thématique, bon, bien sûr, un grand rayon sur les penseurs politiques et la philosophie politique, qui est quand même au cœur de la librairie. Et le rayon, le fond, qui a un peu ouvert la librairie, qui est sur les quartiers et l'immigration post-coloniale, et bien sûr sur les questions coloniales et post-coloniales, voilà, qui a été un peu le cœur de la librairie au départ... quand on s'est créé.
Merci. Saïd, est-ce qu'on peut te considérer comme un invité ou comme un futur co-animateur ou animateur tout simplement des échos du Grand Saint-Barthélemy ?
Un invité, peut-être après je ferai mes preuves, on ne sait jamais.
Depuis le temps que tu as cette pratique radiophonique aussi, donc voilà. Alors, en quelques mots, Michel, peux-tu nous présenter Transit, sa création, par qui, pour qui et pour le pourquoi, même si tu as répondu en partie.
J'ai un peu répondu en partie. Alors, par qui, en fait, donc c'est une librairie qui est sous forme associative. Donc, c'est une association qui gère la librairie. Et, voilà, donc on a créé l'association en 2011. Et on, c'était nous, d'ailleurs, c'était quatre personnes. Donc, il y avait Alain Castan, Muriel Modre et Elodie Dubureau et moi-même. En fait, ce qui nous a interpellés, c'est qu'on ne trouvait pas de librairie dans lesquelles on trouvait des livres, en tout cas en nombre. Parce que bien sûr, les librairies avaient des rayons politiques, il ne faut pas non plus se le cacher, mais en nombre, avec des éditeurs, des petits éditeurs indépendants, etc. On ne trouvait pas ce qu'on avait envie de trouver. Et on trouvait ça curieux dans une ville comme Marseille, deuxième ville de France, qui n'est pas une librairie spécifique liée aux luttes sociales, à la critique sociale, ça nous... Voilà. Et donc, on s'est dit, on va créer une association et essayer de faire vivre une librairie. Bon, c'était un peu fou, hein, parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, déjà, c'était un peu fou. Donc, on a créé l'association sans lieu, au départ. Et on a eu la chance... on a eu plusieurs rencontres. D'une part, en 2011, il y a eu un salon du livre politique à Marseille, je crois qu'il y en a eu qu'un d'ailleurs, de mémoire, où il y avait des éditeurs engagés. Il y avait notamment l'édition Sileps, l'édition du Passager clandestin, Libertalia, à qui on a présenté notre projet de librairie, à qui ça leur a plu. Et on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour nous faire un dépôt de livres. Le dépôt de livre, c'est intéressant pour un libraire, c'est-à-dire qu'on prend les livres, on ne paye que quand on les a vendus. Donc il n'y a pas d'avance de trésorerie, ce qui tombe bien, parce qu'on n'en avait pas. Donc c'était plutôt pas mal. Donc ils ont accepté, donc ils nous ont fait des dépôts. On a rencontré aussi, bien sûr, Agone, l'éditeur marseillais, avec un fonds politique très important, qui a aussi accepté de nous faire un dépôt assez important. Plus deux ou trois petits éditeurs qui malheureusement ont disparu, je pense à Terre Noire notamment, enfin, voilà, qui ont accepté de faire ce geste, ce qui fait qu'on avait un petit fonds de livres qui était chez nous, puisqu'on n'avait pas de lieu, on n'avait rien. Et voilà, et comme nous étions tous les quatre militants, politiques, syndicaux, engagés sur la solidarité avec la Palestine, enfin plein d'activités. On a fait jouer un peu ces petits réseaux pour aller sur des événements, alors plutôt politiques et sociaux dans la majorité, mais aussi culturels. Et voilà, donc on a amené nos livres, voilà, pour voilà, un peu que le meeting ou la réunion ou la conférence, c'est un petit plus avec des livres. Et au fur et à mesure, voilà, on a commencé à grossir. On a eu la très grande chance qu'il y ait le Forum mondial alternatif de l'eau à Marseille,
oui, tout à fait,
en 2011,
oui,
où on nous a invités à faire un stand. Et là, effectivement, ça nous a permis après d'avoir un peu de trésorerie pour le coup et de pouvoir avoir au moins un local où on puisse mettre le stock, faire nos commandes, etc. Voilà, c'est le tout début de la librairie.
Donc vous n'avez pas eu accès aux demandes de financement comme d'autres associations. Loi 1901, cela ne rentre pas dans votre logique.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport au Centre national du livre, le statut d'association ne compte pas. Donc pour les aides éventuelles d'installation, de création de librairie, il ne fallait pas. On a fait une demande de subvention à la région. On s'est dit, voilà, on va faire une demande. La réponse a été négative. Et donc voilà, donc après, on a plus fait de demande de subvention. On a essayé de vivre, voilà, de créer la librairie comme ça et de pouvoir vivre et survivre au fur et à mesure sans subvention. Ce qui ne nous a pas empêché, subvention publique,
oui, bien
je
sûr.
Précise. Puisqu'une fois que la librairie... Alors, on va vite sur l'histoire, oui. On ne va pas passer la journée. Donc, à un moment donné, on a pu avoir un lieu, un vrai lieu, une librairie, là où on est installé maintenant au 45 pour la Libération, tout en faisant nos tables extérieures. Je pense qu'on en parlera avec Karima, oui. Puisqu'on a été... on a travaillé ensemble pendant les banquets de Fanon au Centre social de l'Agora. Et donc, voilà. Et on a ouvert cette librairie, mais on a fait appel... Les trois premières années, on va dire, quatre premières années, au soutien public. C'est-à-dire, ouais, on disait, voilà, on est une petite librairie, il n'est pas sûr qu'on finisse l'année, voilà. Et donc, on a fait appel régulièrement, et les gens ont répondu de façon voilà, assez massive. C'était agréable dans le sens où les gens étaient pour le projet, soutenaient le projet, donc ça nous a encouragés à continuer.
Saïd, tu avais une question initialement en dehors. Alors, quelle est cette question que tu voulais absolument poser ?
Ah, c'est une question géniale. Pourquoi Transit ?
Alors, pourquoi Transit ? Ben, y a plusieurs réponses, y a plusieurs explications. La première, c'est qu'effectivement, comme je viens de le dire, au début, nous étions itinérants. Donc, nous étions un peu en transit. On se baladait effectivement sur Marseille et le département. Voilà. La deuxième raison, c'est rapport au livre d'Anne Segers, qui s'appelle Transit. Qui se passe à Marseille pendant la guerre. Et c'est l'histoire d'une femme. Bon, le personnage principal, c'est une femme, enfin, c'est un couple, mais c'est l'histoire générale de ces gens qui venaient à Marseille, quand Marseille était encore en zone libre, pour venir chercher des visas, pour partir à l'étranger et échapper aux Allemands. Donc, c'est un livre assez fondateur. En plus, Anne Segers, c'était une écrivain assez engagé qui est parti de l'Assemblée. J'ai plus le nom en tête, d'écrivain pour par rapport à la guerre d'Espagne, voilà, qui a pas mal milité, bon, qui a après politiquement un peu dérivé sur le stalinisme, mais bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un d'important, d'une écrivaine engagée, voilà, et ça nous intéressait. Et petite chose en plus, c'est qu'Alain et Muriel, donc, qui sont éditeurs, par ailleurs, ont une maison d'édition qui s'appelle La Courte Échelle, édition Transit. Voilà.
Donc on en parlera aussi.
Le lien a été fait. Donc c'est un peu ces trois éléments qui ont fait que nous sommes appelés Transit.
Est-ce qu'il y a d'autres librairies en France qui vous ont inspiré pour la création ?
Oui, tout à fait. En fait, on avait une librairie amie qui nous a pas mal aidé au départ, j'ai oublié de la citer, j'en suis désolé, qui s'appelle La Brèche et qui est à Paris, qui a qui a à peu près la même caractéristique que nous, c'est-à-dire c'est une librairie de critique sociale, politique, etc., que l'on connaissait par nos investissements militants divers et variés, et voilà, qui nous a pas mal aidés au début en nous faisant aussi, elle, des dépôts, voilà, pour qu'on puisse avoir quelques livres en dehors des éditions que j'ai citées tout à l'heure. Voilà, il y a celle-là, il y en a d'autres en France, hein, des petites librairies, petites ou grandes d'ailleurs, librairies politiques, on va dire engagées, comme on dit, en tout cas qui présentent un fonds à peu près similaire au nôtre. Il y a chez Canal à Lyon, il y a la Griffe Noire, d'ailleurs, je crois, qui a été saccagée par des fachos il n'y a pas longtemps. Voilà, ça existe en France, heureusement, il y en a pas mal d'autres.
Oui, en face du micro, voilà. Juste, je te remercie. Donc, nous allons saluer Alain, Muriel et les autres camarades de la librairie Transit en faisant juste une petite aparté, pas musicale, puisque nous vous proposons d'écouter Abdel Malik qui lit un extrait de son ouvrage qui s'appelle Camus, l'art de révolte. Merci Sidi.
L'étranger, libre adaptation. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Et le soleil enfilé derrière les volets me secouait les épaules en souvenir de l'époque de l'école. Au petit déjeuner aujourd'hui, maman m'a engueulé au ralenti. C'était pas mon tempo habituel, alors j'ai ri. Mais il n'y avait rien de drôle, alors elle est partie. Je ne dirai plus jamais je t'aime. J'ai zoné dans ma vieille voiture neuve dans la cité comme si j'étais encore jeune et je me suis fait contrôler par les keufs. Mon teint, ma tête et mon look sont des preuves accablantes si j'en crois leur tutoiement. J'ai presque été triste pour eux d'être innocents. Je ne dirai plus jamais je t'aime. Et puis, j'ai mangé un grec chez Moussa, la totale, ketchup, mayonnaise et coca. Des gosses à côté m'ont regardé moche. Si j'avais eu quelque chose dans les poches, un peu d'argent, un gun, je sais pas, ça aurait été différent, je crois. Je leur ai fait un sourire pour la route. Leurs yeux m'ont dit « va te faire ». Je ne dirai plus jamais je t'aime. Je m'étais mal garé, j'ai eu un PV. Ça aurait fait moyen dans le CV si je l'avais déchiré, déjà que ma vie, elle était ce qu'elle était, même si les mecs, ils savent peu, ils savent pas. On rêve d'avoir un appart, une femme, un chien ou un chat. Je veux pas une vie de bourgeois, je veux juste une vie où tu te sapes, tu bouffes et tu gaulerie. Voilà, je ne dirai plus jamais je t'aime. Je suis allé au supermarché me prendre un déo et une mousse à raser. À la caisse, j'ai rencontré Dounia, la petite amie du quartier. Un canon dans lequel tout le monde avait plus ou moins tiré. Un jeu de mots bête, tout simplement pour dire qu'elle était belle, mais qu'on lui avait jamais appris à dire correctement « je t'aime, moi, je ne dirai plus jamais je t'aime ». J'ai regardé toute ma vie la cité vivre sur un banc. Des sœurs en cheveux et des frères en turban. Des cas sociaux qui s'en sortent. On ne dit rien, alors que si un haineux sans raison te mord la main après te l'avoir léché comme un chien. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai si t'es un mec bien, mais je ne dirai plus jamais je t'aime. Funérailles, sur le dos, un jogging et des Jordan noirs. Alors j'ai couru facile, j'étais en retard. J'ai eu le temps de faire la prière sur le mort. Il y avait du monde, mais bon, je crois que j'ai juste prié sur moi, comme tout le monde. J'ai pris la pelle et j'ai jeté un peu de sable. J'ai pris la peine et j'ai pleuré comme une femme à des funérailles. Je ne dirai plus jamais je t'aime. Et le lendemain, le soleil, enfilé derrière les volets, me secouait les épaules, en souvenir de l'époque de l'école. Au petit déjeuner aujourd'hui, maman m'a engueulé au ralenti. C'était pas mon tempo habituel, alors j'ai ri, mais il n'y avait rien de drôle, alors elle est partie, je ne dirai plus jamais.
Oui, galère. Vous venez d'écouter Abdel Malik, qui a lu un extrait de son ouvrage Camus, l'art de révolte. Alors, la question que j'ai envie de poser à Michel, c'est à savoir si c'est ce type aussi de littérature, d'ouvrage qu'on peut retrouver, par exemple, à Transit.
Ah, alors, donc, oui, la grosse partie du fond de la librairie, bien sûr, sont des essais. Donc, sur les thématiques diverses, j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a encore d'autres, sur l'antifascisme, sur les quartiers, donc, les migrations, sur les migrants. Sur les migrations, voilà. Là, c'est plutôt des essais. Alors, pas forcément des essais universitaires très pointus, hein. C'est aussi des essais qui sont lisibles par tout le monde. Bien sûr, le but, c'est que le plus grand nombre puisse lire ce genre d'ouvrage. Et d'un autre côté, on a aussi ouvert la librairie à des ouvrages de fiction, donc soit fiction ou policière ou roman littérature générale, on va dire. Mais évidemment, toujours avec un rappel au fond. C'est-à-dire qu'on a un fond de littérature avec beaucoup d'auteurs, notamment africains, soit du Nord ou subsaharien, moyen-orientaux. Voilà, c'est ça qui nous intéresse aussi de mettre en avant. Ou des textes d'auteurs occidentaux, peu importe, qui parlent de choses sociales. voilà, je pense à des classiques comme London ou des choses comme ça. Mais même récemment, il y a encore pas Le Varé, par exemple, qui parlait du Havre et des etc. Donc voilà, c'est ça qui nous intéresse. Même chose pour littérature jeunesse, qui est de plus en plus intéressante, militante. Il y a plus en moins de choses bien dans la littérature jeunesse et de bande dessinée. D'accord. Voilà, donc on essaye d'avoir une présentation de livres divers et variés, mais toujours avec la même idée du fond de base, qui est critique sociale, qui est... Voilà.
Donc on peut trouver des littératures, des poètes, par exemple, Aimé Césaire et autres. Bon, donc
par exemple, des Mahmoud Darwish, voilà. Tout à fait, voilà, bien sûr.
Alors, comment se fait la diffusion des ouvrages que vous avez, même si tu as déjà abordé un peu ce point, hein, en participant, d'autant que vous n'êtes pas invité ou vous ne pouvez pas accéder aux bibliothèques municipales?
Alors oui, on ne peut pas effectivement faire de table lors d'événements dans les bibliothèques municipales, puisqu'on ne fait pas partie du réseau de libraires du Sud.
D'accord.
Voilà, qui sont les premiers acteurs. Bah, d'abord, il y a la librairie, effectivement, où on fait là de la publicité autour de Facebook, liste mail, enfin un peu comme tout le monde. Voilà, on annonce soit les livres qui viennent d'arriver, soit, j'en parlerai un peu plus tard, des présentations qu'on peut faire. Ensuite, on est invité par des gens qui font des événements et qui nous invitent à tenir une table en rapport avec l'événement. On parlera effectivement des banquets de Fanon et Karima un peu
maintenant
plus.
Maintenant, nous allons le faire dès que tu auras terminé.
Voilà, donc voilà, mais voilà. Aussi là, bah, récemment, bon, malheureusement, ça a été annulé puisqu'il y a le confinement. Il y a le cinéma Les Césars qui devait repasser le film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage. Il nous avait invité à faire une table avec le livre de Dufresne et de deux autres auteurs qui étaient là. Voilà, régulièrement, on nous invite aussi à faire quelques petites tables parce qu'on a tissé maintenant depuis 2011 quand même un petit réseau de lieux, voilà, des centres sociaux, notamment au centre social Saint-Antoine où on est allé, où on va retourner bientôt, je l'espère. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui... On tient encore des tables à l'extérieur qui nous font... C'est un élément qui nous fait connaître et puis qui permet d'amener des livres dans des moments où voilà, il n'y en a pas, ou des endroits malheureusement désertés par le livre. Et si on va parler des banquets de Fanon, mais je pense notamment au quartier Nord, il faut savoir qu'à quartier Nord, il y a la bibliothèque du Merlan, on peut avoir du livre, et la librairie L'Encre Noire à l'Estac. Entre les deux, enfin, je n'ai pas connaissance de d'autres lieux où il puisse y avoir des livres. Donc, ce qui est, la vie, c'est complètement hallucinant d'entendre ça. Et donc, voilà, ça nous permet voilà, d'avoir aussi un public en attente de livres et qui n'a pas la possibilité d'avoir des livres à portée de main, qu'ils soient en bibliothèque ou en librairie.
Alors, la passeuse de mémoire du comité Mamega, Karima, alors peux-tu rappeler un peu en quoi consistaient les banquets de Fanon qui ont duré malgré tout 4 ans, ce qui est remarquable aussi pour une action qui cesserait de la durée.
Alors, les banquets de Fanon, je vais essayer de recontextualiser comment on a cheminé pour arriver quand même au banquet de Fanon. En 2004, c'est ma première année en tant que directrice du centre social Agora, et j'ai l'intuition comme ça de faire venir un sociologue qui est Saïd Bouamama pour parler des 20 ans de la marche. Ce n'était pas en 2003, parce qu'en 2003, je n'étais pas vraiment encore directrice de cet équipement. Mais en 2004, je le fais venir avec Abdallah Mougnis, que vous connaissez, pour raconter cette marche de 83 pour l'égalité contre le racisme, et non la marche des beurs. Et depuis, on s'est dit que chaque année, on aurait un débat dans cet équipement, parce que me semble-t-il que cela fait partie de ce que doit être un équipement qui se réfère à l'éducation populaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le comité Mamega, mais alors j'ai oublié la date, peut-être Jean-Marc s'en souvient. C'était à l'espace culturel Busserine, c'était en... Non, c'était pas... Donc, je termine, après tu... C'était pas en 2000, hein. C'était à l'espace culturel Busserine, peut-être qu'il a pas... Je n'ai pas souvenir, mais en tout cas, à l'espace culturel Busserine, il y a une conférence sur les luttes de l'immigration et le racisme, et contre le racisme, pardon. Et il y avait Salva Kondro qui était présent et qui, à un moment donné, prend la parole. Il dit, en se référant à un texte du sociologue Abdelmalek Sayad, il y a les ancêtres qu'on a et les ancêtres qu'on se donne. Et là, il dit qu'effectivement, en référence évidemment au comité Mamega, qu'un des ancêtres qu'on se donne dans le territoire du Grand Saint-Barthélemy, c'est Franz Fanon. Et c'est comme si on cheminait comme le petit poussé, on balise un terrain en mettant des petits cailloux pour arriver effectivement à un moment donné. Et le point d'orgue, c'est le discours à l'époque du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui à Dakar dit grosso modo, je n'ai pas peut-être la bonne formule, mais que l'Afrique et l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Et ça, j'ai trouvé ça d'abord en tant que citoyenne, et je suis aussi moi aussi africaine par mes origines du Nord, j'ai trouvé ça complètement ahurissant, scandaleux, enfin... C'était vraiment terrible. Et puis moi, j'avais un public qui est quand même issu, par leurs parents, de l'Afrique. Tu dis Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne, en tout cas, d'Afrique, et puis de ce qui est aux alentours, comme les Comores, etc. Et là, l'idée germe de créer les banquets de Fanon. C'est un mélange des banquets de Platon et Fanon, puisque c'est notre ancêtre qu'on s'est donné. Et on associe évidemment rapidement le comité Maméga. Donc on a été co-organisateur des banquets de Fanon. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, je ne sais plus, je pense que c'est par le biais de ACTE, Approche Culture et Territoire, qui vous avait déjà fait venir, en dehors des banquets de Fanon, dans des conférences et débats qu'organisait l'Agora à l'époque. Et puis on a associé un troisième partenaire, qui est évidemment le Transit, qui ont été des compagnons pendant 4 ans de cette aventure formidable de 2011 à juin 2014.
Oui,
Michel. Oui, non, c'est vrai que nous, c'est vrai que l'approche culture et territoire est un vieux complice, on va dire. On a pris grand plaisir à venir à chaque fois à l'Agora pour ces banquets de Fanon. Parce que d'abord, les soirées étaient vraiment hyper intéressantes. Les invités, que ce soit des sociologues, historiens, c'était vraiment...
Cinéastes,
tout à fait. Donc, ça remplissait effectivement ce qu'on a envie de faire, en fait. C'était exactement ça, c'est-à-dire aller dans des endroits où, malheureusement, même s'il y avait l'espace culturel Busserine encore qui marchait à l'époque, vaguement. Voilà, un endroit qui était un peu déserté, ce qu'on dit, les endroits perdus, mais c'est perdu pour les gens qui sont dedans, surtout. Voilà. Et voilà, c'était la double fonction d'amener une littérature qui nous intéressait, Banquet de Fanon, bah, nous, ça nous, évidemment, ça faisait écho largement. Donc voilà, ça, c'était vraiment, puis on était reçus, en plus, de façon superbe. Et voilà, c'était, pour nous, c'était vraiment évident d'être là, et vraiment, c'était très intéressant et très, très, très bien, voilà.
Ce qui me semble être intéressant, qui participait, il y avait pas mal de jeunes, au sein de Social Agora, qui venaient participer au banquet de Fanon. Et cela contribuait à une forme de prise de conscience aussi des différentes problématiques auprès de la population de nos quartiers, que je pense que l'on a tendance souvent à sous-estimer leur capacité de pouvoir appréhender certaines problématiques. Donc ce sont des moments qui me semblent être importants et qu'il faut que l'on puisse, tant soit peu, essayer de les renouveler, peut-être de les refaire à un autre niveau. Saïd, tu semblais vouloir intervenir parce que je sais que le collectif Mémoire en Marche a poursuivi un peu dans le sens de convier aussi Transit Librairie, qui est toujours très accessible et qui répond favorablement aux différentes demandes.
Oui, bien sûr. Je pense qu'à Marseille, donc, dans les milieux militants, Transit, c'est le loup blanc. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui peut se faire en relation avec les livres. Le premier réflexe, de les contacter. Jean-Marc, comme tu es très malin, tu as fait un lien. On parle des banquets de Fanon. Et Mémoire en Marche, on avait organisé une projection d'un film sur Fanon l'année dernière. Donc il y avait aussi une table de Transit. Et là, plus récemment, ensemble aussi, avec le comité Maméga et ACTE, on a fait projeter le film de I Am Not Your Negro. C'était donc un film qui était vraiment dans l'actualité, puisque c'était à peu près au moment où on parlait des problèmes aux États-Unis avec George Floyd, etc. Et c'était vraiment un film très, très touchant parce que, d'une part, c'était intéressant si on voyait un peu l'histoire des États-Unis, la ségrégation, etc. Et d'autre part, c'était très intéressant parce que des mots qu'employait Baldwin, on pourrait les employer aujourd'hui, quoi.
Tout à fait.
C'est-à-dire notamment l'action du déni, c'est-à-dire que la société, entre guillemets, blanche, se demandait toujours, mais quel est le problème ?
Oui. Nous profitons pour remercier le directeur du cinéma de l'Alhambra, n'est-ce pas, Saïd, parce qu'il répond toujours favorablement aux requêtes ou doléances que nous pouvons formuler pour la diffusion d'un film, avec discussion possible, n'est-ce pas?
Oui, je pense que c'est prévu d'inviter William Benedetto, le directeur de ce cinéma. Évidemment, c'est une institution très très importante pour Marseille en général et pour la partie nord de Marseille.
Voilà. Alors, avant la prochaine pause musicale, Michel, je te demanderai de lire un extrait d'un ouvrage à ton choix que peut proposer à la clientèle, je ne sais pas, parce a un côté un peu marchand pour mon marchandisation.
Les livres, on les vend finalement.
Vous les vendez.
Donc effectivement, il y a quand même un rapport à un moment donné, même si c'est dans une autre. Forme que d'autres commerces, évidemment, mais non. Là, j'ai amené avec moi effectivement un livre qui me paraît en ce moment très important, et qui s'appelle Racisme au pluriel de France, un livre qui a été co-dirigé en fait par Oumar Slaouti, militant antiraciste, professeur en collège, il me semble, et notamment militant antiraciste. Notamment, il a créé le comité Alizyri Argenteuil. Il est devenu d'ailleurs conseiller municipal Argenteuil de la direction municipale. Voilà, c'est un militant, quelqu'un d'important. Et par Olivier Lecourt-Grandmaison, qui est un chercheur, un historien, spécialiste de l'histoire de la vie politique et spécialiste de la colonisation française en Algérie, notamment. Il a écrit quelques livres là-dessus. Et son dernier livre, Olivier Courgomaison, il s'appelait Ennemi mortel, et qui en fait était le sous-titre, c'était la politique islamophobe de la France dans les colonies. Voilà, donc c'était très intéressant. Donc ils ont co-dirigé ce livre, où ils ont fait appel à plusieurs chercheurs, ou en tout cas, pas que des chercheurs, d'ailleurs, aussi des militants, une vingtaine, 23, il me semble, pour être précis. Et voilà, et donc chacun a écrit un texte dans le domaine dans lequel il est compétent. Et on peut retrouver, bon, évidemment, Oumar Slaouti et Olivier Courgomaison ont aussi écrit des textes. Oumar Slaouti sur l'école, puisqu'il est professeur. Il y a aussi Fabien Jobard, qu'on a vu récemment dans le film de Dufresne, justement, qui est un spécialiste de la police, des violences policières maintenant. Il y a Karine Parot, qui travaille sur les migrants. Il y a bien sûr Saïd Bouamama, c'est l'extrait que je vais vous lire un peu sur le communautarisme et le spectre qui hante la France. Il y a Dominique Vidal sur l'antisémitisme. Voilà, il y a pas mal de personnes qui ont écrit, et c'est divisé en plusieurs chapitres. Bien sûr, il y a un chapitre sur les différents racismes qui existent, parce qu'on pense finalement à l'islamophobie ou racisme ou à la négrophobie, mais il y a aussi l'anti-tsiganisme, le racisme anti-asiatique, bien sûr l'antisémitisme. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Voilà, et sur des domaines, l'école, le travail. Le travail, c'est fait par quelqu'un de solidaire qui s'appelle Verbian Angeli, notamment. Il y a Vincent Vergès sur le féminisme décolonial. Voilà, donc c'est un livre qui est pour moi essentiel. Et effectivement, il y a le chapitre de Saïd Bouamama sur le communautarisme. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est quand même assez long. En lire quelques passages et un peu dire ce chapitre. En fait, il fait d'abord un petit historique des premiers, entre guillemets, communautarismes et des premiers, en fait, populations qui ont été accusées de communautarisme. Bon, il remonte effectivement aux Bretons, aux Basques, Occitans, Auvergnats, qui étaient considérés comme des communautaristes, puisqu'ils étaient toujours comme des communautés, notamment à Paris. Et je ne résiste pas quand même de vous lire un petit extrait d'un journaliste qui s'appelle l'abbé d'Olière en 1842. Parce que c'est vraiment. On change juste quelques noms et c'est très bien. Les Auvergnats n'adaptent ni les mœurs, ni la langue, ni les plaisirs parisiens. Ils restent isolés, comme les Hébreux de Babylone, au milieu de l'immense population qui tend à les absorber. Et l'on peut dire que, plus heureux que les sauvages, ils emportent leur pays à la semelle de leurs souliers. C'est d'une violence inouïe, mais je pense qu'on pourrait reprendre ce texte et l'actualiser. Ça ne changerait pas grand-chose. Donc il fait un petit historique. Et bien sûr, l'antisémitisme fin 19e, début 20e, en France, en Europe en général, mais en France en particulier. Et voilà, donc il dit, voilà, le communautarisme, c'est pas une question nouvelle en France. Déjà, pour unifier la République, pour en faire... Il y a déjà eu des accusations de communautarisme, surtout de séparatisme. C'est un peu le couvert qu'il y a. Donc il dit, Saïd Bouamama, l'accusation de communautarisme plonge ses racines dans une longue histoire nationale et a été mobilisée à différentes périodes contre les populations françaises et étrangères. Loin d'être l'expression d'une réalité, le pseudo-communautarisme, imputé à des groupes divers et une élaboration politique et idéologique, qui favorise la construction d'un bouc émissaire jugé crédible, qui permet d'offrir aux peurs sociales des objets sur lesquels se porter et qui travaille à délégitimer les résistances et les revendications d'égalité de celles et ceux qui sont accusés de porter gravement atteinte à l'unité nationale. Par sa portée stigmatisante, le terme communautarisme est au service d'une stratégie d'invalidation politique de toutes les tentatives de remise en cause des assignations inégalitaires. Voilà, je pense que, évidemment, le chapitre est beaucoup plus long, mais déjà, rien que ce passage resitue et résume bien la situation dans laquelle on peut être maintenant, et qui, effectivement, n'est pas une situation originale, on va dire, puisqu'il y a, donc, j'ai cité les Auvergnats, mais effectivement, les Bretons, les Corses, les Occitans, on peut... voilà, et donc, c'est vraiment un article très intéressant qui permet un peu de comprendre la stratégie. Ah, bien sûr, il parle de communautarisme de classe, évidemment avec la ségrégation urbaine entre les classes populaires et les classes aisées. Il parle d'un communautarisme imposé, puisqu'en fait, de ce qu'il explique, et ce qui peut paraître évident quand on est ici à la Busserine, c'est que les classes bourgeoises ont la possibilité, elles, de changer de lieu, changer de quartier quand elles veulent pour pouvoir mieux vivre, etc. Bon, ce qui est tout à fait légitime. Voilà. Alors que les classes populaires, et les classes populaires racisées notamment, n'ont pas ces moyens-là. C'est-à-dire qu'on les assigne à un quartier, à un endroit, et elles n'ont pas la possibilité de pouvoir changer de quartier. Et donc, effectivement... arrive ce commun qu'il y a entre ces populations, qu'on assigne comme communautarisme, mais qu'en fait, il y a une protection, parce que la société les assigne de façon assez violente, soit par leur couleur de peau, soit par leur religion, réelle ou supposée, d'ailleurs. Voilà. Donc, effectivement, il explique tout ça, et Boimama, et c'est vraiment très intéressant, ça permet un peu d'appréhender toute cette question-là, et notamment récemment la loi dite confortant la République, il me semble, son nouveau nom. Et donc voilà, il finit sur le fait qu'effectivement, il y a besoin de lutter, bien sûr, contre ça, et qu'il y a besoin d'alliés. Alors lui, il ne parle pas d'alliés, il parle de complices. Mais il parle quand même de l'autonomie de ces mouvements, ce qui est pour lui l'essentiel, ce qui me paraît légitime, l'autonomie des mouvements des quartiers, comme pouvait l'être, par exemple, la marche pour l'égalité, etc. Mais il parle aussi, effectivement, de la nécessité d'avoir des complices dans la population, et des gens qui puissent être aidés, en tout cas être supportés, ce genre de mobilisation.
Oui, Saïd Boimama, qui est très connu, pas vrai Saïd, qui intervient énormément et qui est notamment scié au sein de...
Le FIQP.
Quartier.
Non, c'est le FIQP, c'est le Front Uni des Immigrations et Cadres Populaires. Voilà.
Donc c'est quelqu'un qui peut venir régulièrement aussi sur Marseille, rencontrer et débattre. C'est quelqu'un qui est très important au niveau de son apport aussi théorique pour la compréhension de certaines problématiques qui sont énoncées, certains faits aussi politiques. Donc il me semble que c'est quelqu'un qu'il faut que vous puissiez découvrir. Et peux-tu rappeler un peu l'intitulé de l'ouvrage que tu présentes ?
L'ouvrage s'appelle « Racisme au pluriel de France ».
D'accord. Merci beaucoup.
C'est la découverte. Je le signaler quand même.
Donc, nous allons faire une petite pause musicale, une respiration musicale pour dire que nous n'allons pas nous attarder aussi sur ce morceau, même s'il est essentiel.
Je vais sortir de chez moi et marcher dehors, m'arrêter un instant, regarder le ciel. Le soleil sur les toits posera ses reflets d'or. Je vais kiffer voir ça, vu que c'est pas essentiel. Je vais m'asseoir sur un banc 5 minutes avec moi, regarder les gens renaître au pluriel. Je vais parler en silence et sourire à haute voix. Je peux faire ça longtemps, vu que c'est pas essentiel. J'aurais envie d'une BO sur mon film du jour, alors je vais mettre du son dans mes deux oreilles. J'ai les poches pleines de mains et les yeux pleins d'amour. C'est un moment important, vu que c'est pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Essentiel. Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant. Après
quelques mois sans beaucoup de couleurs. Confinement noir et blanc, délivrance arc-en-ciel. Je vais offrir des chansons, des sourires et des fleurs. J'en aurai plein les mains vu que c'est pas essentiel. Je vais aller traquer avec les premiers venus. Si pour faire la fête, je sens un bon potentiel. Avec la famille, les potes et des inconnus, on va lever notre verre à ce qui est non essentiel. Puisque la vie est une succession de superflus, soyons superfous et superficiels. Protégeons le futile et sur ce je conclue. N'écoutez pas cette chanson, elle est pas essentielle. Pas essentielle. Pas essentiel. Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère.
Merci Grand Corps Malade pour ce morceau pas essentiel. C'est un morceau qui a fut récent, qui parle un peu de fait que pas mal de d'outils de la culture qui n'ont pas eu accès à l'ouverture, alors que les grands supermarchés et autres étaient ouverts et que c'était considéré comme pas essentiel. Alors ma question, Michel, c'est à savoir comment au niveau de transit, vous avez vécu et surtout subi la situation de fermeture des librairies et des lieux de culture qui continuent et qui persistent jusqu'à aujourd'hui.
On l'a vécu un peu comme tous nos confrères. En tout cas, pour le premier confinement du 15 mars au 11 mai, c'était très rude. Donc on a été obligé de fermer pendant 2 mois. Ce qui, bien sûr, il y a la question financière qui est importante. D'ailleurs, on a fait, alors qu'on ne le faisait plus depuis quelques années, on avait réussi à avoir une stabilité financière qui nous permettait de ne plus faire appel aux personnes, parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent un peu à contre-cœur, c'est que demander de l'argent aux gens, c'est jamais très facile. Et donc, depuis deux ans, on n'avait plus besoin, parce qu'il y avait une stabilité financière très précaire, hein, certes, mais qui était là. Et là, on a été obligés, effectivement, parce que là, on voyait, dès mi-avril, on se demandait jusqu'à quand ça allait aller. Donc, on se disait, à un moment donné, même si certains fournisseurs de livres, distributeurs de livres, faisaient l'effort de repousser les factures, ils ne faisaient que les repousser pour éviter, effectivement, que les libraires se trouvent avec des déficits abyssaux. Il fallait les payer un jour, il y avait le loyer, comme tout le monde. Hein. Et donc, on a été obligés de faire un petit peu appel aux gens, on a fait un appel à soutien. Alors, on a été long à le faire parce que honnêtement, on doutait de la, pas de la légitimité de la chose, mais on voyait tellement. Et puis certains d'entre nous étaient un peu investis dans des mouvements de solidarité avec la population, parce que à Marseille, comme dans d'autres villes, ça a quand même mis une bonne partie de population complètement à la rue, mais au sens propre et au sens figuré de la chose. Des gens qui n'ont plus à manger ni rien. Donc on a hésité en se demandant, librairie, c'est gentil, pour nous c'est important, mais voilà. Et puis mi-avril, quand on s'est dit, on va quand même essayer de même si les gens donnent un petit quelque chose, ça, effectivement, il y a eu un soutien assez important, ce qui nous a fait effectivement plaisir. Les gens ont soutenu la librairie, ce qui était plutôt agréable pour nous. Ça veut dire qu'on était pas tout seul, si je puis dire. Et donc, ça a permis de tenir effectivement un petit peu et de réouvrir mi-mai. En faisant de nouveau le travail de librairie comme les autres, classiques.
Est-ce qu'à cette période, vous avez privilégié la vente en ligne? Parce qu'apparemment, c'est quelque chose ou pas? Vous êtes dans ce move?
Non, on ne l'a pas fait. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne l'a pas fait. D'abord, le système ne nous paraissait pas très. Ne nous intéressait pas en tant que libraire. C'est-à-dire que c'est vendre en ligne, c'est. Nous, la librairie, on la conçoit pour les gens qui viennent. Nous qui allons devant des gens, mais discussion de choix, etc. Et en plus, on n'est pas riche, on n'a pas de logiciel qui nous permette de mettre le fonds en ligne, en fait. Donc, on peut pas dire aux gens commandez, on vous dira si on l'a ou pas. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, on ne l'a pas fait. On a repris mi-mai normalement. Il y a quelques personnes qui gentiment ont commandé des livres. De façon, c'était informel, c'est plutôt informel. On dit qu'on a fait sur la liste de diffusion mail, donc c'était pas du tout plus assez public, dans le sens où c'est les gens qui ont déjà donné leur mail. On dit, si vous voulez commander des livres, quand on a su qu'on pouvait rouvrir mi-mai, on a dit, si vous voulez commander des livres, commandez-les, et puis vous les aurez dès mi-mai, on pourra vous les procurer, mais ça s'est fait sur 15 jours, quoi. Il n'y a pas eu ce qu'on a fait plus plutôt, par contre, au mois de novembre, là.
D'accord. J'essaye d'être dans... Saïd, peut-être que tu voulais aussi intervenir.
Oui, je voulais peut-être revenir sur la question du bénévolat, parce que c'est quand même singulier, oui. Parce qu'on en a parlé rapidement en disant association. Mais c'est que, comment on fait pour gérer une librairie avec uniquement des bénévoles?
Comme toute association, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on était quatre au départ, et puis petit à petit, des gens se sont agrégés pour participer aux permanences d'ouverture de la librairie, etc. Donc maintenant, on est une petite dizaine régulièrement. Je pense qu'on doit être une quinzaine de gens qui viennent régulièrement à la librairie. Il y a une dizaine de personnes. On fait une réunion tous les mois, des gens qui sont intéressés pour parler, effectivement, comme de notre association, c'est-à-dire qu'on fait un petit point financier, un point sur les différentes activités, on en parlera peut-être après, qu'on organise, etc., à venir dans les mois suivants. Et puis, on fait aussi un tour de table disant, voilà, quels sont les livres, voilà, et on fait un choix de livres. Après, comme toute librairie, on a des catalogues, on a des commerciaux qui viennent nous voir avec des catalogues pour qu'on précommande des livres qui vont sortir deux mois plus tard, etc., comme plein de librairies le font. Mais en plus, on a ça, c'est-à-dire que c'est une espèce de comité de lecture, on va dire, qui propose des livres qui n'auraient pas qu'on n'aurait pas vu autrement, et puis pas forcément des nouveautés, enfin voilà, pour pouvoir augmenter le fonds de la librairie. Ça se passe comme ça. Et ça permet d'avoir un choix de livres, effectivement, intéressant, parce que c'est toutes les personnes qui sont là peuvent participer au choix des livres. Voilà.
Alors, nous allons poursuivre. Comment s'opère le choix des auteurs et des ouvrages?
C'est dans la suite de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais dire un peu jeu, parce que c'est moi qui suis principalement le plus souvent à la librairie et qui reçoit notamment les deux ou trois commerciaux qui viennent nous voir. Il faut savoir que le livre, pour juste faire très rapide pour le circuit du livre, donc il y a l'auteur, après il y a un éditeur, et après il y a deux structures qui se suivent. Le distributeur, qui est la partie logistique, donc amène les livres, qui stocke, et le distributeur, qui lui en fait la commercialisation. La publicité, le marketing, catalogue, commerciaux, etc. Donc on reçoit deux ou trois commerciaux de diffuseurs. Je reçois des catalogues, bien entendu, ou en ligne ou physique. On fait un choix. On coche les livres qui nous paraissent, avec la description qui en est faite. Alors, quand c'est avec le commercial, c'est plus facile parce qu'on peut discuter. Quand c'est sur catalogue, on voit la description, on regarde un peu plus. Et puis, il y a les auteurs. C'est-à-dire des auteurs avec qui on... Voilà, si demain, il sort un bouquin de Saïd Bomama, je vais lire deux lignes, mais je vais le commander. Enfin, il y a à moins qu'il passe dans un truc temporel. Il y a des chances que ça soit intéressant pour la librairie. Il y a des auteurs qu'on suit parce qu'on sait que... Voilà, et des éditeurs aussi. Des éditeurs avec qui on est affilié. Moi, je pense à Syllabs, La Fabrique, Libertalia. Enfin, il y a plein d'éditeurs avec qui on était en contact au début et qui proposent un catalogue qui nous intéresse au plus haut point. Donc voilà, c'est des gens avec qui on travaille de préférence. Après, évidemment, on a des livres, je vais en présenter, de chez Plomb, Flammarion. Enfin, rien n'empêche. Nous, c'est le choix du livre se fait en fonction, effectivement, de l'auteur et de ce qu'il raconte et de notre fond. Notre fond, c'est-à-dire que même si on peut commander ce qu'on veut à la librairie, c'est-à-dire demain, si vous voulez commander le dernier Goncourt, vous pouvez, on ne l'aura pas forcément. Mais voilà, après, nous, le choix qu'on fait pour présenter des livres est différent.
Et est-ce que l'on peut considérer à travers ces choix que c'est une librairie qui se veut engagée ou qui est engagée tout simplement?
Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement, puisque c'est des livres de critique sociale, donc effectivement, c'est engagé dans certaines réflexions sur la société. On essaye de ne pas mettre de bordure, c'est-à-dire que toute question sur la société nous intéresse. Bon, on est d'accord sur un certain point. C'est-à-dire qu'on va parler de la gauche ou de la gauche, si on veut mettre des mots sur ça. Mais par exemple, des questions que peuvent poser des collectifs ou des auteurs anarchistes, libertaires, autonomes, nous intéressent. On n'est pas forcément d'accord avec leurs réflexions, mais en tout cas, les critiques qu'ils désignent nous intéressent pour mettre en question la société. Parce que si on ne faisait que les livres qui politiquement nous sciaient, on ouvre un kiosque, c'est pas une librairie. Donc ce qui nous intéresse, c'est effectivement toutes les questions qui nous intéressent. Après, on n'est pas forcément d'accord, ça peut entraîner des discussions, des débats justement si on invite les auteurs. Justement, j'en profite, nous on invite des auteurs pour présenter leurs livres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils présentent le livre, mais qu'il y ait un débat avec les gens qui viennent. C'est-à-dire que ça peut être un débat contradictoire, on a eu des débats un peu... Bah, houleux, mais bon, voilà, où ça se répand vif, voilà, mais c'est très bien. Nous, c'est ce qu'on veut. Enfin, c'est, nous, c'est le questionnement qui nous intéresse. Bon, évidemment, s'il y a des solutions, on les prend aussi, mais pour l'instant, on n'a pas trop vu des solutions encore en main. Mais voilà, il y a des choses, il y a des propositions, en tout cas. Minimum des propositions de gens qui nous intéressent.
Et est-ce que tu penses que les gens lisent de moins en moins, que les livres n'occupent plus l'espace qu'ils occupaient par le passé ? Avec une possibilité, avec une, ne serait-ce que pour les gamins, les ouvrages jeunesse que vous proposez aussi. Et que bon, les réseaux sociaux ils sont en partie aussi responsables. Et que, ouais, que le livre n'occupe plus la même place.
Peut-être, mais c'est de quelle place on parle ? Parce qu'il faut faire aussi attention. Parce que la librairie, moi, il y avait eu un sondage il y a une quinzaine d'années qui avait été fait. La librairie était présentée comme, après la pharmacie, comme le commerce le plus froid. Les gens n'osaient pas entrer dans la librairie parce que c'était le temple du savoir. Et quelques libraires n'étaient pas des plus sympathiques. C'est-à-dire que si on demandait un livre et qu'on se trompait un peu, c'était un peu comme si on avait tué leur mère, père et mère. Bon, c'était un peu curieux. Il y avait ce côté-là. Alors, je ne vais pas employer des mots un peu des grands, mais c'est culture bourgeoise un petit peu quand même,
oui,
la librairie. Et je pense qu'il y a eu une démocratisation de la librairie, effectivement, de petites librairies, ou comme nous, comme d'autres, qui ont permis dans des quartiers, justement, ou dans des gens qui n'avaient pas accès aux librairies centre-ville. C'était ça aussi, quand même, un petit peu. Alors, de là, moi, je ne pense pas qu'il y ait moins de gens qui lisent, parce que, écoutez, honnêtement, à la reprise, après le premier confinement, au déconfinement, en tout cas au mois de juin, et là, c'est vrai pour toutes les librairies de France et de Navarre, il y a eu une affluence énorme dans les librairies. Alors, on l'a vu, j'en ai parlé à 2-3 libraires que je connais sur Marseille, pareil, et après j'ai lu effectivement des articles, et dans toute la France, les gens sont revenus dans les librairies pour lire. Parce que pendant 2 mois, bon, ils avaient peut-être des livres en stock, mais ils ont épuisé, et puis ça a été la vidéo, que ce soit pour le travail, en vidéo, ceci. Et les gens ont envie de lire, de voilà. Donc je ne suis pas sûr que les gens lisent moins. Alors peut-être qu'ils lisent différemment, enfin, c'est peut-être vrai. Peut-être qu'effectivement, ils lisent plus d'articles sur des sites... voilà, comme Mediapart ou d'autres, peut-être moins de livres en tant que tels, mais lire un article où à la fin vous avez une petite bibliographie où il y a un rappel de biographie fait que les gens vont peut-être aller acheter un livre pour en savoir un peu plus sur ce qu'ils viennent lire. Donc je ne suis pas sûr qu'on lise de moins en moins, honnêtement.
D'accord. Avant de faire une... Saïd, oui ?
Oui, peut-être le programme des rencontres qui sont prévues, parce que normalement elle devait avoir lieu en automne et finalement tout est reporté.
On avait quelques, effectivement, alors parce qu'on, pour être plus large, on invite des auteurs à venir parler de leurs livres. On fait aussi des soirées thématiques, j'en parlerai peut-être pendant 2 secondes plus tard. Et donc on avait un programme entre novembre et décembre, bien sûr, qui a été annulé. Et qui après, a priori, se remet en place, mais après on ne sait pas, parce que normalement ils ont dit à partir du 7 janvier.
Oui, bon.
Mais bon, on attend de voir comment ça va se passer. Alors ça ne sera pas à la librairie, parce que malheureusement notre salle... est petite, donc même si on pouvait reprendre la jauge, ferait qu'on serait 8 ou 9, donc ce qui ne veut rien dire. Donc pour l'instant, qui est prévu, mais sous toute réserve d'annulation et tout, il y a le 9 janvier, Rachida Brahim, donc sociologue marseillaise, qui a publié son livre chez Sileps, qui est en fait un livre issu de sa thèse, qui s'appelle « Le racisme tue deux fois ». Voilà, donc ça serait le 9 janvier, ça serait au Centre social Saint-Antoine, au plan d'Aou. Comme on dit ici. Mm-hmm. Alors après, la date n'est pas fixée. Il y a donc Omar Slaouti qui viendrait présenter son livre dont je viens de parler, Le racisme de France, enfin son livre, auquel il a collaboré. Et normalement, ça devait se faire au McDo Sainte-Marthe, et j'espère qu'on pourra le refaire, dans le cadre de la reprise du McDo, oui, etc. Ça nous intéresse beaucoup de faire ça là-bas, et puis apparemment eux aussi. Et le troisième, ça serait Françoise Vergès,
oui,
pour son dernier livre, enfin son nouveau livre plus exactement, qui s'appelle « Une théorie féministe de la violence ». Et là, ça se ferait donc le 23 janvier à 17h30. Pareil, hein, pour le 9, ça c'est 17h30, au Planning Familial, qui est boulevard national.
D'accord. Donc, pas mal de projets. Et 2 questions, à savoir, qu'est-ce qui pousserait le public et les auteurs à venir acheter plus à Transit Librairie que dans une autre. Ça, c'est la première question. Et deuxième, qui n'est pas une question, c'est à savoir quel est le coup de cœur pour Transit, au niveau des ouvrages pour la librairie Transit.
Alors, qu'est-ce qui amènerait les gens à venir D'abord parce que, mais comme d'autres librairies, on a des livres que les autres n'ont pas. Mais comme les autres ont des livres qu'on n'a pas, voilà. Donc chaque, en tout cas pour les librairies spécialisées ou en tout cas qui ont un fonds un peu particulier, on a chacun nos particularités. Nous, c'est vrai que le fond sur le colonialisme, l'anticolonialisme, et sur l'Algérie notamment, parce qu'on a quelques livres d'édition algérienne qu'on ne peut pas voir ailleurs en France notamment, voilà, qui fait une spécialité. Effectivement, les gens pourraient venir pour ça, et puis pour le fond en général, qui est... Si vous voulez, il y a d'autres librairies où il y a des rayons politiques, des rayons qui posent des questions, mais c'est des rayons. Nous, c'est la librairie qui est dédiée à ça, en fait. Donc c'est ça notre spécificité, que les gens viennent en disant on risque de trouver ici ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs, mais après, ils peuvent très bien aller, s'ils vont à la librairie de BD, ils vont trouver des BD qu'on n'aura pas forcément. Enfin voilà, je veux dire, c'est ça qui fait venir les gens dans une librairie publique. Après, des gens qui font toutes les librairies, hein, moi, des gens qui viennent acheter des livres à Transit, qui vont aussi à Lidl, qui vont aussi ailleurs. Voilà, ce qu'ils trouvent, ce qui les intéresse, là où ils peuvent. J'oublie la deuxième question, excuse-moi.
La deuxième question, c'est coup de cœur.
Les coups de cœur, voilà. Bah, donc, comme je disais, en fait, les livres sont choisis. Chacun amène un peu. Donc, c'est un coup de cœur général. Hein, c'est pas. Donc, celui que je viens de citer plusieurs fois, et j'insiste, il est essentiel en ces moments, c'est Racisme de France. Donc, co-dirigé par Omar Slaouti et Olivier Lecourt Grand Maison aux éditions La Découverte. Il y a un livre qui s'appelle La Discrétion. De Faïs Aghen, dans l'édition Plomb, qui est en fait, à travers l'histoire de sa maman, et un peu romancée, l'histoire des mères de l'immigration, des mamans de l'immigration, la discrétion, donc ils sont discrètes, voilà, donc c'est toute cette histoire sur cette question-là, et c'est un. Enfin, là, c'est donc on le met en avant nettement. Il y a le 10e tome de l'histoire dessinée de la France, alors donc en fait, c'est la revue dessinée qui étudie ça, qui publie ça. Et c'est intéressant parce qu'il y en a déjà eu des éditions de la France en bande dessinée, mais là, c'est fait par pas mal d'historiens, de nouveaux mouvements historiens, nouveaux courants qui sont très anti-roman national, etc. Et avec un BDiste avec eux, et surtout d'une façon très originale. Pour un exemple, le premier volume qui s'appelait Abad National, qui présentait un peu la collection, et ben on avait Jeanne d'Arc, Molière, et je ne sais plus qui, dans une Clio, et qui s'est baladé en France. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais avec. C'est un historien aussi à côté, donc c'est des références historiques. Scientifiquement, c'est précis. Mais dans une façon, voilà, pour pouvoir présenter. Voilà. Et puis une autre histoire de France que celle qu'on a tous appris à l'école et qui, voilà, qui n'est pas là, qui est un peu le roman national qu'on veut nous faire avaler. Il y a ensuite un livre pour enfants qui s'appelle Ni poupée ni super-héros, qui remet un peu en cause le formatage qui se dit manifeste antisexiste, voilà, qui est le formatage des les petits garçons sont des super-héros, les petites filles sont voilà, jouent la poupée. Enfin bon, je ne fais pas le dessin. Et le dernier, c'est... alors ça, ce n'est pas forcément une nouveauté. Hein, c'est le livre de Dominique Manaouti qui s'appelle Marseille 73, donc un roman policier, puisque c'est une écrivaine de romans policiers, et qui se passe, comme son nom l'indique, à Marseille en 73, donc... où il y a eu une série d'assassinats à caractère raciste à Marseille, suite au... Enfin, ça avait déjà un peu commencé avant, mais suite notamment, ça a un peu bousculé, à l'assassinat par un déséquilibré d'origine algérienne, d'un chauffeur de bus, voilà. Ouais. Et suite à ça, il y a eu des appels aux meurtres dans la presse.
Les pogroms,
et autres, voilà, etc. Et donc, c'est cette histoire-là qu'elle a récupérée, parce que c'est une historienne au départ, Monique Monotti. Elle l'a récupérée, elle en fait un roman policier, donc avec des personnages fictionnés, hein, comme le commissaire qui fait l'enquête, étonnant de fiction, mais... Elle a récupéré toute l'histoire, effectivement, les liens avec les anciens de l'OAS, le SAC, enfin, tout le... Et c'est, voilà, ça raconte un peu une histoire de Marseille, quoi. C'est un moment de la vie de Marseille raconté sous forme de roman policier.
Avant de laisser la parole à Saïd, le prochain morceau sera Anne Sylvestre, Noël n'est pas au magasin, d'accord ? Donc c'est un clin d'œil que nous adressons. Saïd, alors ?
Bon, c'était une question par rapport à l'international. Qu'est-ce que vous avez des rapports avec des librairies, des auteurs ou des éditeurs d'autres pays ?
Alors, auteurs, pas trop, parce qu'en fait, c'est compliqué, puisque en général, les auteurs étrangers sont, en tout cas, s'ils ne sont pas de langue française, sont traduits. Donc, il y a une exception pour l'instant, qui est, et je viens d'oublier son nom, et c'est dramatique. Cette femme qui américaine qui est venue en France à la fin des années 50 et qui avait été confrontée au racisme, à l'antisémitisme notamment aux États-Unis et qui a fait la rencontre de militants du FLN à Paris et qui est devenue leur interprète puisqu'elle parlait français et anglais couramment américain et qui a épousé un membre du FLN qui a été après ministre de la Sécurité intérieure, quelque chose comme ça, et qui a été à Alger au moment de l'indépendance. Et son livre s'appelle Alger, capitale de la révolution. Et donc, elle raconte, c'est entre 62 et 67 ou 8, sa vie à Alger, où elle reçoit les Black Panthers, elle voit tout le monde qui défile, et c'est ce soir-là. Et c'est assez, là, c'est le seul exemple, puisqu'elle parlait français, donc on pouvait. C'est un livre qu'elle fabrique, et j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé, c'est horrible, un trou de mémoire. Et donc, elle est venue à la librairie, c'était un moment assez fantastique, et voilà, donc, de l'histoire d'Alger, d'Algérie, vue par une Américaine qui était... mais autrement, non, puisque effectivement, c'est compliqué, si c'est des auteurs étrangers qui écrivent dans leur langue natale, c'est un peu original. Par contre, sur les éditeurs, on a... Alors, qui sont distribués en France, d'ailleurs, on a des éditeurs canadiens, je pensais à deux, il y a Lux, et Mémoire d'Encrier, qui a une spécialité de questionnement sur la question des natifs d'Amérique du Nord, du Canada particulièrement, et aussi des Antillais, des Haïtiens en particulier, parce qu'il y a une grosse communauté haïtienne au Canada. Donc c'est des questions très importantes, et voilà, qui sont sous forme ou roman ou d'essai. Donc c'est des éditeurs étrangers qui sont distribués en France. Et après, on a des contacts, que j'ai dit tout à l'heure, avec des éditeurs algériens, notamment avec Barzac, avec Darketab, des gens qu'on a fait venir, c'est une petite parenthèse, qu'on avait fait venir il y a quelques années, en 2015 et 16, on avait avec Acte, justement, et d'autres associations, organisé les 3 jours de l'édition et auteurs algériens francophones, de langue française, plus exactement d'ailleurs, et qui étaient venus, on a fait ça 2 ans de suite. Et donc là, on a lié des liens particuliers avec ces éditeurs-là. Parce qu'il faut savoir qu'aucune édition algérienne n'est diffusée en France. Il y a des éditions tunisiennes, je pense à Lizad, qui est une très bonne maison d'édition, marocaine aussi, mais il n'y a aucun accord entre l'Algérie et la France là-dessus. Pour plusieurs raisons politiques, on peut les imaginer. Et en plus, la raison, c'est que le circuit du livre en Algérie, ça s'améliore un petit peu, mais très, très, très désorganisé, on va dire. Et donc, c'est compliqué, effectivement. Ça serait compliqué de mettre en lien des relations commerciales. Mais nous, voilà, on réussit à faire ça. C'est un peu une de nos petites spécificités d'avoir des livres d'éditeurs algériens.
Donc, une respiration, je dis bien respiration, compte tenu de l'heure qui nous est impartie, qu'on est avec Anne Sylvestre. Noël n'est pas au magasin. Et oui, Galère, émission Les Échos du Grand Saint-Barthélemy, dernière partie avec notre invité Michel de Transit Librairie, à l'issue des quelques questions que nous saurons lui poser encore, profiter de sa présence, nous procéderons au communiqué. Alors, Michel, une question qui est d'actualité, c'est depuis quand la librairie a-t-elle réouverte, d'une part? D'autre part, à quel rythme? Si c'est tous les jours, comme les autres librairies, quelle est l'adresse, le mail et le blog?
Eh bien, on a réouvert comme tout le monde. Alors, il me semble que c'était le 2 novembre ou 3 novembre, je ne sais plus. Décembre. Je ne sais plus où on en est, là. On ferme, on ouvre, donc on ne sait plus trop quand est-ce qu'on ouvre ou qu'on ferme. Donc on a réouvert pour le début décembre, c'est ça. Normalement, nous sommes ouverts du mardi au samedi, les après-midi. Et là, pour jusqu'à la fin de l'année, je pense que ça sera un nouvel horaire qu'on va donner. On va être ouvert dès le matin, 11h, mais toujours du mardi au samedi. Voilà. Donc, effectivement, c'est des bénévoles, on fait des permanences, tout le monde fait des permanences régulièrement.
Donc, l'adresse, le téléphone.
L'adresse, nous sommes au 45 boulevard de la Libération, dans le premier arrondissement, en prolongement de la Canebière, parallèle à la rue Consola, pour être précis. On a un site librairie Transit où on met les événements à venir. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Et puis, ce qu'on a pu faire, petite parenthèse par rapport au premier confinement où on se disait, voilà, on n'est plus là, il n'y a plus rien qui se passe. Et il se trouve que depuis 4 ans, les copains comoriens viennent à la librairie le jour de l'anniversaire de la mort de Salima Toubou.
Ça s'est
fait une première fois et tous les ans ils viennent, voilà. Et c'est d'après-midi en général, c'est samedi avant ou après l'anniversaire de la mort de Salim. Voilà, ils viennent pour un peu d'émotion, mais surtout voilà, avec des conteurs, voilà, passer un après-midi pour parler de Salim à tout bout. Malheureusement, c'est en mars, donc c'est fin mars. Je crois qu'il est décédé le 1er avril. Donc cette année, ça n'a pas pu se faire. Et donc on a, avec leur accord, bien sûr, mis en place des lectures. On a mis sur le site des lectures de contes, parce que Salima Toubou a écrit des livres, mais aussi des contes, etc. Qui ont des contes comme rien. Donc on avait fait ça, qu'on a essayé de faire vivre la librairie via son site. C'est là que je parle du site. On a une page Facebook, bien entendu, et on a une liste. On a une adresse mail qui est info pluriel. .transitlibrairie@gmail.com qui nous a servi pour le deuxième confinement à ce qu'il y ait des petites commandes. Justement, nous, on a fait par mail, puisque par le site, c'est pas possible, on peut pas. Donc, on avait fait une petite appel à commande et c'est l'adresse. Enfin, si vous allez sur le site, il y a un endroit où on peut envoyer des mails aussi. Voilà.
Donc, on pourrait dire et penser que Transit a plus d'une flèche à son arc. À savoir qu'il y a un lien avec la courte échelle, alors que l'édition Transit, est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Donc la courte échelle, qui est une maison d'édition, j'avoue que je ne connais pas la date exacte du début de la maison d'édition, je crois que c'est les années 90, il me semble, j'avoue que vraiment demander à Alain, il va m'engueuler, parce que je ne sais pas la date, mais voilà, et qui édite, donc une petite maison d'édition, et qui a édité principalement et essentiellement des livres en rapport avec la Kanaky, la Kanaky Kanaky. Que ce soit des essais, ce soit des recueils de poèmes, etc., sur la Kanaky. Donc, ils ont aussi édité les livres de Muriel Maudre, artiste plasticienne, qui a fait notamment un travail sur le Diwan, et qui était venue d'ailleurs notamment, qui était un travail de longue haleine, parler avec des groupes de femmes, notamment de la Busserine d'ailleurs, mais aussi de Gardanne, si je me souviens bien, des mots, justement, les mots dans la langue française, dans le dictionnaire, quels mots viennent de l'étranger, et quel pays, etc. Donc, retracer les traces, en fait, des routes de commerce et tout, et on s'aperçoit que dans la langue française, il y a un nombre de mots d'origine étrangère, et notamment d'origine arabe, assez impressionnant. Ce n'est pas que du latin, la langue française, voilà, donc c'est tout un... Il y a des mots d'origine anglaise et vice-versa, il y a des mots anglais d'origine française, des mots que je viens de dire d'origine arabe, beaucoup. De par, au départ, le commerce, puis les migrations, à un moment donné, puis bien sûr, les guerres coloniales ont fait qu'il y a certains mots qui sont revenus en France, je pense à Toubib, par exemple, qui vient de Toubab, il y a le bazar, il y a l'amiral, je ne savais pas aussi, un amiral, il y a plein de mots qu'on peut utiliser très couramment et qui viennent de l'arabe, finalement. L'Alcazar, tout à fait. Et donc, elle avait fait ce travail avec ses femmes et elle en a fait une exposition et un livre qui s'appelle Diwan, les mots voyagés. Donc, c'est le genre de livre qu'ils éditent. Et voilà, le fond est quand même principalement... Ils ont édité l'année dernière un livre de Régine Fiorani sur la Palestine était reparti en Palestine. Oui, c'est la question de la clé, la fameuse clé que gardent les Palestiniens quand ils sont dans les camps de réfugiés. Ils ont gardé la clé de leur maison qu'ils ont dû quitter, enfin, que leurs grands-parents maintenant ont dû quitter en 47 et 48.
Merci. Alors, quel serait ton mot de la fin pour aujourd'hui ?
Mot de la fin, eh ben, je ne sais pas trop, parce que en espérant, j'avoue que je suis un peu prêcher dans le désert, que ça aille mieux pour tout le monde, la situation, évidemment, c'est sanitaire, nous sommes d'accord, mais là, mais surtout sociale et politique, ça serait bien qu'elle s'arrange un peu, parce que ça aggrave cette situation sanitaire qui est effectivement préoccupante, mais derrière, il y a tout l'appareil répressif, on a parlé de la loi sur le séparatisme, mais il y a aussi la loi sécurité globale, il y a dans les manifestations, on a encore vu samedi dernier à Paris, Et puis, la situation sociale à Marseille, il faut en parler, parce que quand on voit que des collectifs, je pense à la... bien sûr, au McDo de Sainte-Marthe, mais il y a aussi les camarades de Maison-Blanche, ou même à Noailles, les Mignons de Noailles, enfin, plein de collectifs. Heureusement que Marseille, d'ailleurs, a un tissu associatif et collectif important, parce que depuis mars, nombre de gens qui seraient morts de faim, ou en tout cas dans des situations désespérées, s'il n'y a pas eu tous ces collectifs qui étaient là pour, que ce soit des colis alimentaires, des colis de santé, d'hygiène, etc. C'est pas la mairie, c'est pas l'État qui a vraiment fait des choses, donc heureusement qu'il y a eu ces gens-là pour subvenir à tout ça et que les gens ne sont pas morts de faim à Marseille. Voilà, une ville de pauvres, une ville pas pauvre, mais de pauvres. C'est pas une ville pauvre, parce qu'il y a quand même une bonne partie des Marseillais qui sont riches. Hein. Si on va dans certains quartiers, il y a quand même une population riche, en tout cas de la grande bourgeoisie, mais c'est une ville où il y a nombre de pauvres. Et voilà, je crois que c'est il n'y a pas longtemps, on a Saint-Mauron, en tout cas, où la Belle de Mai a été classé quartier le plus pauvre d'Europe. Quand même.
Oui, tout à fait. C'est la Belle de Mai, mais c'est un petit peu tôt.
C'est Saint-Mauron, oui, voilà. C'est effrayant. Voilà, donc c'est un peu... ça serait bien que toute cette situation... Mais bon, on lance ça comme bouteille à la mer, parce qu'après, j'ai pas de solution politique, je suis pas... Voilà, donc... mais bon, c'est un peu le mot de la fin. Puis lisez, justement. Évidemment, venir à la librairie Transit ou dans d'autres librairies, parce que lire et avoir de la connaissance, ça permet aussi de réfléchir, ça rejoint un peu ce que dit Saïd Bouhamama, c'est-à-dire que la connaissance, le savoir, et je ne parle pas du savoir universitaire, le grand savoir, le savoir, savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, là, ça permet aussi de pouvoir se battre.
Alors nous, de notre côté, que pouvons-nous souhaiter à Transit Librairie? C'est qu'elle puisse continuer à fonctionner, à mener leurs actions, leurs activités auprès des structures, même si fût-elle petite, mais qu'elle puisse être toujours aussi omniprésente. Et pour ce faire, nous allons citer Franz Fanon, puisque c'est notre veilleur de conscience avant sa mort, qui est survenue le 6 décembre 1961. Et dans Les damnés de la Terre, il a adressé une lettre à Roger Taïeb dans laquelle il écrivait « Nous ne sommes rien sur Terre si nous ne sommes pas d'abord l'esclave d'une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté ». Et bien sûr, tous ces ouvrages, vous pouvez les retrouver, notamment Fanon, Glissant et autres, à Transit Librairie. Donc nous vous conseillons fortement de profiter pour faire des cadeaux aussi, puisque c'est la période de cadeaux. Alors, Michel, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé avec toi, en espérant te retrouver l'année prochaine, probablement aussi.
C'est moi qui vous remercie fortement d'avoir invité la librairie aujourd'hui, d'en faire une émission entière, vraiment...
Mais ça fait partie des objectifs aussi du comité Maega, qui est la lutte contre l'illettrisme. Donc c'est pousser aussi les habitants de nos quartiers à pouvoir accéder à la lecture, puisque Transit Librairie propose aussi des livres jeunesse, des livres aussi pour toute catégorie de personnes et centres d'intérêt de personnes en fonction de leur choix aussi.
Alors j'ai oublié, et si je ne dis pas, je vais faire tuer, qu'effectivement, pour le livre sur les quartiers nord, il y a aussi la bibliothèque de Saint-André, qui fait beaucoup de choses et qui a une activité très importante, même si elle est petite. Puis il y a quand même la nouvelle médiathèque. Voilà, ça y va tout bout.
D'accord. Nous, au niveau du comité, nous entretenons des liens avec la bibliothèque municipale du Merlan aussi, qui est très très bien. Donc c'est quelque chose qui est accessible aux habitants du quartier. Le tout, c'est qu'il faut que nous puissions tenter tant soit peu d'impulser cette dynamique-là. Ceci étant, nous allons passer au communiqué, puisque c'est la dernière partie. C'est surtout une information du groupe de veille de la Busserine. Premier point qui est abordé, c'est le nettoyage du chemin d'accès au centre social Agora, les encombrants sur le quartier. Donc, le nettoyage du chemin d'accès au centre social a été réalisé le vendredi 20 novembre, parce qu'il y a Karima qui est bien et qui connaît bien un peu la situation de cette problématique d'encombrants. Ce nettoyage avait été demandé par le groupe de veille dans le cadre du groupe de travail 4 de vie avec la préfecture, la politique de la ville, concernant les dépôts d'encombrants sauvages sur le quartier. Les alertes faites auprès du service engagé au quotidien fonctionnent puisque le ramassage a eu lieu dans les 48 heures qui suivent le signalement via l'application téléphone. Il y a une invitation qui est lancée par le groupe de veille aux intervenants sociaux, associations et habitants signalés un dépôt sauvage. Un groupe WhatsApp a été créé pour faire circuler rapidement l'information. Deuxième problème, c'est celui de l'absence d'éclairage chemin d'accès Agora. Après maintes mails adressés aux différents services concernés, accompagnés des démarches de Fabienne Bénet, qui est déléguée à la préfète à l'égalité des chances, il y a le problème de l'éclairage. La réponse que de dire qu'il n'y a pas d'éclairage, c'est en lien avec l'incapacité à situer la dominialité de ce domaine, ce qui est un peu beaucoup scandaleux. Donc, il faut savoir que le chemin d'accès actuel est d'ores et déjà condamné. Seul l'accès par la gare Picon pour les personnes qui connaissent bien le quartier est possible. Le centre social va avoir à mettre en place une communication sur le quartier. Le nouvel accès se fait pour les piétons par la nouvelle voie ouverte à côté de Halte Picon, que tu connais aussi carrément, au bout du bâtiment J, et pour les véhicules par un accès existant sur l'avenue Salvador Allende qui permet d'accès à l'Agora par l'arrière du bâtiment. Donc là, dans cet endroit, dans ce lieu, il y a un parking. Troisième problème, c'est celui de la plaine des loisirs. En l'absence de travaux d'aménagement, la plaine des loisirs est un no man's land où trône actuellement carcasses de voitures et de nombreux dépôts sauvages. Il est nécessaire pour le groupe de veille d'alerter, de demander une rencontre avec les services et élus concernés. Quatrième point, c'est le ramassage des caddies Carrefour. Après plusieurs démarches, le ramassage des caddies de l'ancien Carrefour qui jonçait le quartier a été fait. Sous la vigilance de notre ami Jean-Michel, que nous saluons, du groupe de veille, le groupe de veille rencontrera Carrefour afin d'éviter que les chariots soient à nouveau abandonnés, parce que nous savons un peu quel est l'usage en fait certains de ces caddies. Concernant une copropriété dégradée de notre secteur, c'est la situation au Mail. L'équipe MSU de la régie a fait une note sur la situation préoccupante de Mail, encombrant hors du réseau à proximité de l'école Vessière. Donc, pour les futures réunions du groupe de veille, se partageront en deux temps. Situation au Mail et situation Busserine Saint-Barthélemy-Picon. Une association de locataires et un syndicat de copropriété devront être créés. L'association, sixième point, c'est solidarité alimentaire. L'association Arc-en-Ciel a été retenue pour être le relais de la banque alimentaire. En lien avec le centre social Agora, les médiateurs, le collectif Jeunes Passerelles des Habitants, les distributions ont lieu un jour par semaine dans les locaux de la crèche de l'œuf. Les listes des familles tiennent compte des propositions des enseignants, des deux écoles, des ASCAF et des médiateurs de Régis Service 13. Septième point, groupe de veille. Le Secours Populaire organise dans les locaux de l'association Sheba une distribution de colliers mensuels. Les listes des bénéficiaires sont adressées par Sheba au Secours Populaire qui les validera. Deuxième information communiquée de notre quartier, les fermetures de fin d'année des structures associatives et des centres sociaux. Le centre social Agora sera fermé du 28 décembre au 4 janvier 2021. Pour toute info, vous composez le 04 91 02 37 31. Quant au centre social Flamand-Iris, sera fermé du 24 au 28 décembre et du 31 au 4 janvier 2021. La maison des familles et des associations, quant à elle, ne sera pas fermée, mais elle assurera uniquement que des permanences. Vous pourrez composer le 04 91 02 35 75. Restons aux Flamands aussi, la fabrique des Flamands est ouverte. Du lundi 21 décembre toute la journée et le mercredi 23 décembre de 9h à 15h. Dans le prolongement de l'automne apprenant, la fabrique bloque des créneaux pour les membres de la commission éducative solidaire. Pour toute info, vous composez le 04 91 21 85 78. Troisième information, c'est un peu plus personnel, émanant du comité Maméga. C'est sincère remerciement à l'équipe de la DAP, et notamment à Hichem, hein, bon, et à Kader du Centre Social Agora, qui encadre une dizaine de jeunes pour donner vie aux espaces rénovés de nos quartiers avec notre artiste plasticien Abou Mouridi. Ces jeunes sont formidables et font preuve de persévérance et d'écoute dans la réalisation de ces grandes fresques murales bucoliques. Nous les encourageons à poursuivre ce projet qui est de bonne facture et de qualité. Bravo et merci pour l'embellissement de nos quartiers, surtout pour les habitants. Enfin, on respire presque. Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d'année, bon boudin, malgré la situation sanitaire qui nous impose de nous protéger, en respectant les gestes barrières, masques, gel, mouchoirs à usage unique, tousser dans vos coudes, etc. En se protégeant, nous protégeons nos proches, familles, amis et autres. Mais tu avais aussi une information concernant la plateforme de Sainte-Marthe aussi à communiquer.
Effectivement, la plateforme solidaire de Sainte-Marthe, ex-McDo, organise ce samedi de 11h à 14h une distribution. Enfin, une distribution. Les gens peuvent venir manger divers sandwichs, végétariens ou pas, à partir du drive. En fait, cette initiative, c'est pour bousculer un peu certaines collectivités, le McDo, etc., pour réfléchir à l'après-McDo, puisque le McDo n'existe plus en tant que tel, puisqu'il ne sert plus les fameux hamburgers de McDonald's, et que les salariés, accompagnés par des acteurs associatifs, des militants et des habitants, réfléchissent à l'après-McDo de Sainte-Marthe pour y installer, à terme, nous le souhaitons, un restaurant, alors où on mangera par contre là des hamburgers de qualité, puisque c'est travaillé notamment avec des chefs étoilés et avec des produits locaux d'agriculteurs. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on est dans l'inverse de ce qui a été proposé depuis 1992. Hein. On reste sur des hamburgers, mais des hamburgers de qualité, avec de la bonne viande, avec des bons légumes, etc. Et c'est important de venir parce qu'il faut soutenir la lutte des salariés du McDo, enfin, les anciens salariés du McDo. Il faut soutenir la lutte menée par Kamel Guémari. Et vous aurez l'occasion, si vous venez, alors c'est les prix, c'est au choix. Enfin, il n'y a pas de prix, c'est selon ce que vous voulez donner. Mais ça sera l'occasion, et je tiens à le souligner parce que Kamel y tient, de goûter le savoureux sandwich, l'hamburger sauvage. Voilà.
Merci Karima. Donc, pensez à soutenir la plateforme d'entraide ex-McDo à cotizup.com. Cotizup, c'est C-O-T-I-Z-U-P. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire. Et nous, de notre côté, le comité Maméga, nous remercions le conseil départemental parce que c'est la seule institution qui soutient tant soit peu cette initiative et que nous regrettons vivement que les autres institutions ne puissent pas participer. Donc, conseil départemental qui soutient les échos du Grand Saint-Barthélemy et bien sûr notre partenaire de toujours, c'est-à-dire Radio Galère. Et nous remercions Sidi d'être toujours présent en espérant vous retrouver sur les ondes de Radio Galère le dernier jeudi du mois dès 2021. Au-delà de l'absence de financement, je pense qu'avec les camarades de Radio Galère, ils seront toujours favorables pour venir nous donner un coup de main et ouvrir un peu des champs de possibles ici sur le quartier. Merci Sidi. Bye bye. Merci aussi Michel de ta venue, merci Karima d'être toujours présente et Farid pour le travail que tu fais de terrain. Allez. Merci.